pouvoir communiquer ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et comme c'est encore les vœux, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux dire à l'église de Wavrin? Et le Seigneur m'a montré dans Josué. Oh non, ça ne sera pas facile. Alors, non, ça ne va pas tomber un peu. Alors, dans Josué. C'était dans Josué 21 et le verset 45. Ainsi, toutes les promesses de bienfaits que l'Éternel avait données au peuple d'Israël s'accomplirent. Aucune d'elles ne resta sans effet. Et le Seigneur me montrait vraiment que toutes les promesses de bienfaits que l'Éternel a données à l'église de Wavrin, eh bien, toutes ces promesses vont s'accomplir. Aucune d'elles ne resta sans effet. Aucune d'elles ne va rester sans effet. Que toutes, et c'est dit plus loin dans Josué, aucune d'elles, sans aucune exception. Donc, tout ce que vous avez reçu, toutes les prophéties que vous avez eues, collectivement, pour l'Église, gardez-les précieusement dans votre cœur. Même s'il y a eu des turbulences, parfois, même si des fois on ne comprend pas tout, on se dit où on va. Le Seigneur vous a donné ce magnifique local, il vous a placé dans ce quartier, et aucune d'elles va rester sans effet. Elles vont toutes s'accomplir. Tout est question de notre foi. Et je lisais encore hier, là, dans Elijah, ce que je recevais, et ça m'a fait du bien pour moi-même, parce que je réalise, parce que parfois, même notre foi, elle est bien vacillante, notre foi est faible. Et je réalisais, et c'était noté, que notre foi, elle est l'indicateur de notre relation avec Dieu. Eh bien, ça m'a fait du bien. Parce que moi, je réalise que parfois, quand j'ai des soucis, quand j'ai des problèmes, bon, ça n'aurait pas à voir vraiment avec le message, hein, mais bon, je veux dire ce que les choses qu'on vient d'avoir des fois. Hein, ça, c'est la rosée, ça. Hein, c'est des perles que le Seigneur nous donne jour après jour. Hein, et je me disais, mais au fond, ma réaction, c'est pas toujours d'aller vers la parole de Dieu, bizarrement. Je suis dans mes soucis, dans mon agitation, puis je me dis non, je ne vais pas lire la parole parce que de toute façon, je vais interpréter, je vais... Et donc, du coup, je ne vais pas forcément, bizarrement, ma première réaction, ce n'est pas vers la parole. J'attends des fois d'être plus calme et puis le lendemain ou le surlendemain. Mais ce n'est pas, pas comme ça que je dois faire parce que je réalise que si je lis la parole, quelque part, je n'ai plus la foi dans mon cœur, je me sens agitée. Je sens que ma foi, elle est faible. Mais on oublie que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et quand j'ai lu que la foi est l'indicateur de notre relation avec Dieu, je me dis, mais au fond, la foi, notre foi, elle est proportionnelle à notre relation avec Dieu. Et si on va tout de suite vers Dieu quand on a des soucis, quand on est agité, c'est justement qu'est-ce qui nous anime. Si tout de suite notre première réaction, c'est d'aller vers Dieu, la foi va venir dans notre cœur. Et on n'aura pas des nuits blanches, etc. Moi, je me rappelle, là, cette semaine, dernièrement, j'ai encore eu une nuit blanche. Mais je me dis, au fond, Annie, t'as pas eu la bonne réaction. Est-ce que vous ne vivez pas ça? Je ne suis quand même pas toute seule à vivre des choses pareilles avec des nuits blanches. Je me suis dit, mais Annie, je me suis convertie à l'âge de 17 ans. Et je me suis dit, tu as tellement la d'année de conversion, je ne vais pas vous dire le nom parce que vous allez savoir mon âge. Hein, donc je vais essayer d'être discrète. Mais je ne vais pas vous dire le nombre d'années, mais je me dis, au bout de toutes ces années, Annie, mais qu'est-ce que tu as encore du mal à... Vous comprenez? Hein, moi, j'aime toujours bien cette phrase. Notre attitude détermine notre altitude. Vous la connaissez, cette phrase? Moi, ça m'aide, ça. Et tout dépend de nos réactions pour aller plus loin ou là où Dieu veut nous amener. Mais à des moments, eh ben, on se dit, bah non, on est des gens de peu de foi. Notre foi, elle est vacillante. Et à des moments, même, je suis sûre que dans votre vie, à des moments, vous ne pouvez même plus entendre le mot bénédiction, bénir. Moi, il y a un moment, moi, des fois, j'ai vécu ça. Des fois, je me suis dit, bénir, je ne veux plus l'entendre, je veux le vivre. Vous voyez, j'en étais comme ça, là. Il y a un peu de rébellion même des fois. Mais il faut des fois dire ce qui est vrai dans notre cœur. Parce que souvent, c'est vrai, comme dit Jean-Luc, il y a le triomphalisme, on va toujours... Mais il faut des fois dire nos combats. Moi, ça m'aide, moi, quand des personnes disent parfois leurs combats et leurs luttes. Parce que sinon, bon, voilà, il faut la foi, il faut tout ça. Oui, d'accord, les bénédictions sont là, on a les promesses. Oui, mais comment s'approprier ces promesses? Il y a des moments, le mot bénir... Oui, et je crois que moi, le Seigneur me montre vraiment que tout vient de notre relation avec Dieu. Moi, j'ai demandé pour cette année le repos intérieur, entre autres. Mais j'ai demandé le repos intérieur. Et je me dis, combien c'est bon de pouvoir nous reposer, d'être sur les genoux de notre Papa Céleste. et de nous laisser bercer par lui, vraiment d'être ces gens qui ont cette foi en disant toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir. La bénédiction, elle est réellement pour nous. Dieu est bon, mais le diable ne peut pas supporter que Dieu soit bon. Une chose dont il ne peut pas supporter, c'est la bonté de Dieu. Parce que lui, il n'est pas bon. Lui, il est voleur et destructeur. Lui, il veut voler toutes ces promesses de Dieu. On le sait, il y a un combat. Mais voyez, pour que notre foi, maintenant, elle soit forte et qu'elle tienne bon, parce que qu'il nous soit le principe de la vie chrétienne, c'est qu'il nous soit fait selon notre foi. Alors si notre foi faiblit, comme je vous dis, notre attitude détermine notre aptitude. Alors pour qu'on ait de nouveau cette foi dans les promesses de Dieu, pour réellement réaliser au fond de notre cœur que la bénédiction elle est pour nous et qu'on n'a pas à se soucier, ni à s'inquiéter, ni à s'agiter, eh bien ça dépend de notre relation avec Dieu, de ces moments d'intimité. Alors je vous souhaite vraiment pour cette année, je souhaite pour moi-même, des moments d'intimité, mais des moments particuliers, des moments que vous n'avez jamais eu encore, des moments forts, des moments où quand vous rentrez de votre travail ou, quand même, ou dans la journée, si vous ne travaillez pas, vous dites, Seigneur, je viens à toi, je viens à toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est la clé. C'est la clé. Venez à moi, je viens à toi tout de suite, tout de suite. J'attends pas d'avoir des nuits blanches, j'attends pas d'avoir passé plein de choses dans ma tête. Comment je vais solutionner ça ? Parce que des fois, c'est les soucis matériels qui nous viennent. Moi encore, là, vendredi, j'ai même eu un coup de fil encore à 7h du soir, un souci matériel. C'est pas grave en soi, mais c'est toujours pour dire « Ah, il faut que je téléphone, il faut que je m'occupe de ça et ça. » Et voyez, c'est toujours des trucs comme ça qui nous viennent, sans arrêt, pour enlever notre joie, pour enlever notre communion avec le Seigneur. Et là, c'est là qu'il faut dire « C'est Jésus, toi le premier. Je viens à toi. Je viens à toi. Venez à moi. » Vous savez, moi, le Seigneur, en ce moment, me montre la révélation de tout ce verset. « Venez à moi. Apprenez de moi. » Moi qui suis doux et humble de cœur, apprenez de moi. Et je crois que ça, c'est les clés pour rentrer dans toutes les promesses de Dieu, pour rentrer dans ce repos. Notre foi, elle est proportionnelle à notre relation avec Dieu. Alléluia. Et donc voilà, il y a toutes les promesses, elles vont toutes s'accomplir, mais qu'il vous soit fait selon votre foi. Accroché dans sa cuisine. Comment ? Oui, accroché dans sa cuisine. Voilà. Je sais que le verset que vous avez eu pour la nouvelle année, j'ai eu la petite carte, et que le Seigneur va faire des choses nouvelles. Hein, ne la connaîtrez-vous pas ? Dieu va vous mettre des fleuves, va faire jaillir des fleuves dans le désert, etc. Et quand je suis allée à la CLC, eh ben j'ai pensé à vous, parce qu'ils vendaient 10 centimes. Un petit calendrier, c'était sous le comptoir. Et j'ai mis, voici, je veux faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas ? Eh ben je l'ai acheté, 10 centimes. Rien. Mais j'ai pensé à vous. J'ai pensé à nous, j'ai pensé à l'église de la région, Nord-Pas-de-Calais, j'ai pensé à notre pays, et je l'ai mis dans ma Bible. Et ça, c'est ce que le Seigneur veut faire cette année. Pour moi, c'était une confirmation, c'est le verset que vous avez reçu, et c'est ce verset qui a été choisi comme petit calendrier, là, sur le comptoir, à Lille. C'est pas merveilleux, ça, l'unité du Saint-Esprit. Et voilà ce que le Seigneur va faire. Il veut faire des choses nouvelles pour vous cette année, pour nous tous, pour l'église de France, pour l'église de la région, et vraiment là, particulièrement pour vous. Alléluia. Et alors donc, je voudrais vous parler ce matin d'un message que j'ai reçu il y a quelques mois. Et c'est un message qui a vraiment été fort pour moi et que je sais qui est pour l'Église. Et donc ce message, ben, je l'ai intitulé, enfin c'est Saint-Esprit qui me l'a montré parce que c'est parti du verset, « Changer de vêtements pour entrer dans les promesses de Dieu. Changer de vêtements pour entrer dans une nouvelle saison. » Changer de vêtements pour vivre ces choses nouvelles que le Seigneur veut pour nous. Changer de vêtements pour rentrer dans toute sa bénédiction. Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous avez envie de connaître ça ? Changer de vêtements. Ce n'est pas parce qu'il y a les soldes au mois de janvier que je vous parle de ça. Il faut changer de vêtements. Mais vous savez, dans le naturel, on change de vêtements. C'est pas vrai ? On change de vêtements. Quand notre vêtement, bah, il est sale. Quand ça commence à sentir une petite transpiration, on change de vêtements. Dans le spirituel, c'est pareil. On doit continuellement se purifier. Sinon, il y a une séparation entre Dieu et nous. Et on change de vêtements selon les saisons. Je suis sûre qu'ici, vous n'êtes pas du tout habillés de la même manière que quand il y avait la canicule au mois de juillet. Hein ? Là, maintenant, on met des choses plus pour l'hiver. Hein ? Donc, on change de vêtements dans le monde naturel. Et le Seigneur nous appelle aussi à changer de vêtements pour les choses spirituelles. Parce que dans notre vie chrétienne, il n'y a pas de monotonie, mais il y a des étapes. Et ce sont toujours des étapes de croissance. Alléluia. C'est toujours des étapes où on va plus loin avec le Seigneur. Et ça nous demande donc de changer de vêtements. Et on voit, il y a un homme dans la Bible qui a changé 6 fois de vêtements. Vous savez qui est-ce? Je ne vais pas demander à Jean-Luc et à Josette parce que je leur ai dit. Il a changé 6 fois de vêtements. Donc, en quelque sorte, il a changé 6 fois de saison. Vous savez, un jour, moi, quand j'étais dans un moment très triste, le Seigneur m'a dit, mais ça ne sera pas toujours comme ça. Il y a des saisons. Il y a l'hiver. Après, on sait, nous, qu'il y aura le printemps. Après, il y a l'été. Vous comprenez? Il y a l'automne avec les fruits. Oh, ben rien que cette phrase, j'étais dans ma voiture, je me rappelle très bien le même endroit. Ce ne sera pas toujours comme ça. Il y a des saisons. Vous savez, ça fait du bien quand le cœur il est complètement labouré. Ça, ça fait du bien, ça vient du Seigneur. Et donc, on voit dans la Bible un homme aussi qui a connu différentes saisons pour pouvoir entrer dans les promesses de Dieu, pour entrer dans les rêves que Dieu lui a donnés. Et cet homme, c'est Joseph. Hein, que de fois je me dis, oh là là, Joseph, heureusement que tu es dans la Bible. Hein. Heureusement qu'on parle de toi. Que de fois ça nous encourage à l'histoire de Joseph. On se retrouve toujours dans Joseph. Et le Seigneur, il m'a parlé de Joseph X fois. Et là, au mois d'octobre, un dimanche soir, je suis rentrée chez moi. Le Seigneur m'a montré et m'a de nouveau parlé de Joseph. Je dis vraiment, c'est une mine d'or pour nous, hein, pour notre vie chrétienne. Donc, on va parler de Joseph. Je sais que vous connaissez l'histoire. Hein, il existe même une vidéo hein, sur Joseph, hein, comme il existe la vidéo de Moïse, le prince d'Égypte. Hein, c'est vraiment des belles vidéos. Donc, Joseph, le rêveur, en fait. Hein, je crois que c'est dit comme ça, le titre de cette vidéo. Alors, donc, je ne sais pas comment j'ai installé mes petites affaires, là. C'est, je suis un petit peu à l'étroit dans mon plan de travail, là. Alors, donc... On va lire dans Genèse 37. Donc ça va, vous connaissez, vous avez tous lu l'histoire de Joseph. Je ne vais pas vous résumer, vous connaissez Joseph, le 11e fils de Jacob, qu'il a eu avec Rachel, son épouse bien-aimée et préférée. Hein, donc après, ça fait partie donc, des 12 tribus de Jacob. Et on voit que Joseph, à l'âge de 17 ans, hein, pour moi, c'est important parce que moi, je me suis convertie, je vous dis, à l'âge de 17 ans. Alors, Joseph, il faisait paître ses troupeaux et ses brebis. Et puis, on voit qu'au verset 3, Israël, donc qui était Jacob, le nouveau nom que Dieu avait donné à Jacob, Israël aimait Joseph beaucoup plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide. On va donc arrêter là. Donc vous avez peut-être dans votre version, moi j'ai la version Le Semeur. Hein. Donc c'est une tunique multicolore, une tunique princière. Et donc j'ai appelé cette saison-là pour Joseph la saison de l'abondance. La saison où il a l'amour de son père, il a la confiance de son père. Il a même l'honneur reçu par son père. Il a même l'autorité reçue par son père, parce qu'il a eu une tunique princière. Alors je pouvais dire que le fils aîné Ruben, il a dû en tirer une tête. Tous les fils qui étaient là avant lui, je ne vous dis pas. Là, c'est Joseph, le 11e, mais le premier fils, bien sûr, donné par son épouse, qu'il avait vraiment choisi, Rachel, c'était lui, Jacob, dans son cœur, a su que c'était lui le fils de la promesse, le fils de l'alliance. Ça, c'est des choses dont on ne peut pas discuter. C'est parfois difficile à comprendre après au niveau humain. Nous, on veut une justice, etc. Mais il y a le plan de Dieu, il y a des appels sur les vies des personnes. Et donc, c'est pour ça qu'on ne doit jamais ni se comparer, enlever tout ça. L'important, c'est de répondre simplement nous à notre appel. C'est pas vrai? Et c'est déjà toute une affaire. Mais on ne doit pas se dire, lui, il a ça. Voilà, hein, comme l'abbé Pierre, bah, il a eu son appel, bah, nous on n'est pas non plus, on n'a pas la même destinée, voyez. Mais l'important c'est déjà nous d'être dans l'obéissance par rapport à l'appel que Dieu a pour nous. Et donc j'ai appelé, c'est vrai, cette saison de l'abondance, et en plus, on voit plus loin, et c'est difficile de porter tout ça pour un jeune de 17 ans. Non seulement il a cette tunique, donc il a l'honneur qui est reçu là par son père, cette autorité qui lui est déjà donnée, et puis... Il reçoit des rêves, la nuit. Il reçoit des rêves, donc il a une communion aussi avec son Père Céleste. C'est une saison quelque part merveilleuse pour Joseph. J'ai envie de dire, c'est comme tout un ciel ouvert. Mais pour porter tout ça à l'âge de 17 ans, c'est pas simple non plus. Et quelque part, j'ai envie de dire, Joseph, si vous me permettez, il a fait des fois des gaffes. Quand il surveillait les troupeaux, bah, les mauvais propos qu'il entendait de ses frères, il allait les rapporter à son père. Il avait tellement une relation intime avec son père. son père terrestre. Et puis les rêves, il les a aussi racontés. Il a manqué parfois de sagesse. Il portait tout ça. C'est pas facile de porter tout ça et de garder tout dans son cœur. Mais des fois, le Seigneur nous demande des fois de garder des choses entre notre cœur pendant un certain temps. On ne peut pas toujours tout dire tout de suite. Et Joseph, on peut dire, oui, peut-être qu'il a fait des gaffes. Mais n'empêche que pour lui, c'était la belle saison. Cette saison. Et nous, on a peut-être connu ça au moment aussi de notre conversion. Un ciel ouvert pour nous. La saison de l'abondance, on découvre l'amour de notre Père céleste. On a envie de le dire à tout le monde, on reçoit ses bénédictions, il y a de l'espérance, de l'assurance dans notre cœur. Enfin, moi, j'ai connu tout ça aussi à ma conversion. J'avais envie de parler du Seigneur à tout le monde, j'en parlais à mes profs, j'en parlais dans mes copies, peu importe. Là, je n'étais pas du tout intimidée par qui que ce soit, peu importe. Je parlais de mon Seigneur. Qu'est-ce qui m'animait ? Le Saint-Esprit en moi. Il y avait cette saison de l'abondance, cette saison de beauté, d'amour. Et puis, Joseph est passé par une autre saison. Et cette autre saison, on le voit dans Genèse 37, verset 23. Joseph donc a expliqué les rêves à ses frères. Et ces rêves, eh bien, c'était, puisqu'ils étaient éleveurs hein, et cultivateurs, c'était les gerbes de blé, les gerbes de ses frères, qui se prosternaient devant la sienne. Et puis il avait vu le soleil, la lune et les étoiles qui se prosternaient devant lui. Donc son père, sa mère et ses frères. Et il raconte tout ça à ses frères et à son père. Jacob, il l'a grondé un peu, bien sûr, mais il a gardé ça en mémoire dans son cœur. Et en même temps, j'ai envie de dire, ça aurait pu être une source d'espérance pour Jacob d'avoir su les rêves que Joseph avait reçus. Parce que quand Jacob a appris qu'il était mort, il aurait pu se dire, ben non, c'est pas possible qu'il soit mort, puisqu'il a eu des promesses. Vous dites peut-être ça, ben non. Peut-être dans nos vies, on se dit, ben non, ça c'est mort. Ça, cette partie de ma vie-là, elle est morte, c'est fini, c'est terminé. Vous comprenez? Mais c'est qu'on oublie que les promesses de Dieu. Parce que Jacob, il a entendu, c'est marqué qu'il gardait ça en mémoire. Et bizarrement, quand on a dit que son fils était mort, quand les frères sont venus et ont montré cette tunique qui était trempée de sang avec le sang d'un bouc, et bien il a pleuré, il a mené le deuil de son fils était terminé, il était mort, il l'a cru. Et le jour, hein, parce que je sais que vous connaissez l'histoire de Joseph, donc ça me permet tout de suite déjà d'aller un petit peu plus loin, mais quand un jour on lui a dit que Joseph est vivant, qu'il est en Égypte, qu'il est le gouverneur d'Égypte, l'esprit de Jacob était mort, il ne l'a pas cru. Il a fallu qu'il aille voir les chars de l'Égypte et voir toute la richesse de l'Égypte devant sa tente pour se dire, ah ben oui, là il était comme Thomas, il a vu et il a cru. Vous comprenez? Alors, on a le choix ce matin. Je n'avais pas prévu de dire ça, vous voyez, on a le choix ce matin. Est-ce qu'on se dit, oui, on va garder nos prophéties en mémoire, les promesses que Dieu a pour nos vies? En mémoire, on fait notre petit tas, là, c'est peut-être écrit dans un cahier, dans notre maison. Je garde ça en mémoire, mais quand le problème est là, eh ben, en fait, j'en prends pas compte. Moi, parce que je me dis, mais si Jacob avait gardé ça en mémoire et s'il avait consulté Dieu, eh ben, je suis sûre que Dieu aurait dit dans son esprit, t'inquiète pas, ton fils, il est vivant. Il n'est pas mort, ça c'est du mensonge, c'est une supercherie du diable qui est le père du mensonge. Vous ne le croyez pas ça? Alors je voudrais vraiment vous encourager. Vous savez, je ne viens pas pour prêcher ni pour enseigner. Je viens pour vous impartir quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur, je vais le mettre dans votre cœur en direct. Voyez, je vais faire comme une transfusion, là, une greffe, hein, vous comprenez? Et c'est ça que je veux, ensemble, on est ensemble ce matin, hein, on est ensemble et on vit tous les mêmes choses ensemble avec hein, des problèmes. Des fois on a eu des problèmes il y a quelques années, parfois c'est un peu moins maintenant, mais quelque part on se retrouve tous de toute façon. Hein. Et donc, on voit, je reviens à l'histoire, on voit donc que Jacob demande à Joseph d'aller dire bonjour à ses frères, d'aller à Sichem. Sichem, c'était pas n'importe quelle ville, Sichem. Jacob voulait s'installer à Sichem. Il avait acheté un lopin de terre à Sichem. C'était plat, c'était bien pour élever les troupeaux. Et puis le Seigneur lui a dit, non, monte plus loin, va à Bethel. C'est à Bethel que tu dois retourner. Et après, il a dû encore aller à Hébron. Mais va plus haut, je ne t'ai pas demandé de t'installer à Sichem. C'est pas là que tu dois aller. Moi, je t'ai parlé à Bethel. Tu dois vraiment retourner là où tu es né après. Et il a fallu un massacre de sang où les frères de tous les fils de Jacob, donc les frères de Dina, Ils ont voulu venger leur sœur qui avait été violée par le prince de Sichem, bien qu'il aimait cette fille réellement. Et ils ont profité que... Ils avaient dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'épouse cette fille? Et bien, ils ont dit, ben, soyez comme nous, il faut vous faire circoncire. Alors tous ces hommes se sont fait circoncire. Et au moment où ils étaient là, fiévreux, tous les frères, ils sont venus tuer tous les hommes de Sichem. Alors Jacob, elle n'avait plus qu'à partir. Vite fait, bien fait. Et Dieu a été avec Jacob. Parce que les gens ne sont même pas venus les rattraper. Il n'y a pas eu de guerre. Il a pu partir tranquillement. Et il a pu partir à Bethel. Et là, quand il est parti à Bethel, je n'ai pas le temps de vous en parler maintenant, mais le Seigneur m'avait montré ça dans Genèse 35. Et c'est là que Jacob a dû dire à sa famille, on s'en va. Mais maintenant, changez de vêtements. C'est exactement dit. Changez de vêtements. Purifiez-vous. Ôtez de vous les dieux étrangers. Parce que Rachel avait aussi pris les dieux de ses pères, vous rappelez, de Laban, hein, qui étaient des gris-gris, les amusettes, tout ça. Tout ce qui est gris-gris porte bonheur, tout ça, on ne veut pas. C'est Dieu seul sur lequel on compte. On ne peut pas aller à la Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Parce que Jacob, il se dit, moi, Bethel, c'est là où Dieu m'a parlé. Moi, j'ai entendu la voix de Dieu et je lui ai fait des vœux. Et j'ai dit à Dieu, si je reviens, parce que Dieu lui a fait des promesses. Et Jacob a dit, bah, si je reviens dans mon pays natal, il est revenu là 20 ans après, si je reviens, eh ben là, je vais t'offrir un autel et je vais accomplir, je vais donner ma dîme et je vais accomplir ce que je t'ai promis. Et c'est ce que Jacob a fait. Donc, alors Sichem, malgré tout, il y avait quand même, moi je crois, hein, si on voit dans, je veux dire, il faut quand même délivrer nos villes. Hein, je vais parler de changer de vêtements pour devenir un libérateur. Et à Sichem, il y avait quand même un esprit de colère et de meurtre. Parce que quand Joseph est venu rejoindre ses frères, cet esprit-là, il était toujours dans Sichem. Parce que là, ses frères, dès qu'ils l'ont vu, ils ont cogité un plan destructeur. Ils ont dit, tiens, voilà le faiseur de rêves, là, celui qui veut nous gouverner, celui qui va être au-dessus de nous. On va voir maintenant ce que ces rêves vont devenir. On va vite le tuer, on va le jeter au fond de la citerne. Hein ? Il y avait cet esprit de meurtre qui était toujours là, dans cette ville. Et ça, c'est important pour dans notre intercession, dans nos villes, dans nos régions et même dans nos familles. De discerner aussi les choses. Et voilà, parce que je n'avais pas remarqué justement ce rapport avec cette ville de Sichem, en fait. Hein. Et alors, au verset 23, « Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique splendide, ils se saisirent de lui et le jetèrent au fond de la citerne qui était vide. Il n'y avait pas d'eau dedans. » Ouf, merci Seigneur, il n'y avait pas d'eau dedans. « Puis ils s'assirent pour manger. » Hein, comme je dis, s'assire pour manger. Hein, je veux dire, ça leur a pas coupé l'appétit de faire le mal. Annette, hein, pour eux, pas de problème. On met quelqu'un au fond de la citerne, mais on mange notre pique-nique sans problème. Hein, il y a pas de problème, tout va bien. Vous vous rendez compte, hein, ce qu'on y a, la conscience peut être étouffée quand la jalousie nous anime, quand la rivalité nous anime. Là, il n'y a plus question de frère, rien du tout. Bien sûr, il y a Ruben qui a quand même essayé de se dire, il vaut mieux qu'il soit là dans la citerne, moi après j'irai le rechercher. Il y a Judas qui est intervenu, hein, puisqu'on voit après, quand il a vu cette caravane des Madianites, il a dit, bon, à quoi ça sert qu'on tue notre frère? Il vaut peut-être mieux qu'on le vende. Hein. Donc, vous connaissez l'histoire. Mais bon, il y a donc un petit peu Ruben et Judas qui sont intervenus, mais malgré tout, là, le mal a quand même été fait. Et donc ça, c'est la deuxième saison que Joseph a connue, c'est-à-dire qu'ils le dépouillèrent de sa tunique splendide. Et ça, j'ai appelé ça, bien sûr, la saison du dépouillement, la saison de la trahison, la saison de l'humiliation subie. Vous savez, moi, quand j'étais... mes parents étaient chrétiens, et quand j'allais à l'église, on parlait beaucoup de mort à soi-même. Alors ça me faisait une peur. Oh, mourir à soi-même, je ne savais pas trop ce que ça impliquait, mais enfin j'en avais une peur bleue, je disais ça être chrétien, mourir à soi-même. Et c'est vrai que quelque part, on a besoin d'être dépouillé de notre chair, de ce qui est charnel. Je veux dire, même Joseph avait besoin de ce dépouillement, de peut-être d'une certaine arrogance, de cette confiance en lui-même, d'un certain orgueil, de son manque de grâce vis-à-vis de ses frères, puisqu'il rapportait tout à son père, de son manque de sagesse. Et nous aussi, on a besoin d'être dépouillés. Il faut sortir un peu soi de nous-mêmes, quoi. Tout ce qui fait obstacle à la vie de l'esprit. Hein, il y a l'âme là qui fait barrage à l'esprit. Et c'est vrai que le Seigneur a besoin de nous dépouiller de tout cela par son Saint-Esprit. Mais vous savez, c'est les circonstances qui chargent tout ça. Ne vous inquiétez pas, il ne faut pas dire « Ah, il faut que je meure à moi-même. » Oh là là, vous voyez, il ne faut pas que ça devienne un fardeau, un joug. Le joug du Seigneur, de toute façon, il est léger. Les circonstances se chargent de nous humilier. Les personnes nous humilient. Il ne faut pas s'inquiéter de tout ça, il ne faut pas chercher ça. Le Seigneur, il fait son travail en nous et il utilise comme il veut, quand il veut. Vous comprenez ça? Et ça, c'est important. C'est pour ça que j'ai mis que c'est aussi la saison de l'humiliation subie. On ne cherche pas. Et puis voilà, on a comme ça des choses qui nous arrivent. Et là, le Seigneur fait un travail en profondeur dans notre cœur. On a le chant qu'on a chanté, il nous guérit à l'intérieur de nous-mêmes pour qu'on soit vraiment libre pour le plan de Dieu. Et c'est ce que Joseph a connu. Et ça, c'est la stratégie du Seigneur quand il nous appelle à être un libérateur et à être un pionnier. Il forge notre cœur à l'école de son humilité. Alléluia. Ça, c'est vraiment important. Et voyez, les frères de Joseph, l'ont dépouillé de sa tunique. Parce que vous savez que Joseph, c'est bien sûr une préfiguration de Jésus. Hein, quand on dit le dépouillard de sa tunique, c'est ce qu'ils ont fait avec Jésus. Et en fait, cette tunique splendide, elle représentait, pour les frères, tout ce qui les irritait. Ils ne pouvaient pas supporter. C'était le chouchou du papa, celui qui allait prendre autorité. Et je réalisais que hier encore, cette tunique, pour moi, elle représente l'onction. Et l'onction, quelque part, elle peut soit être attractive, c'est-à-dire l'onction, c'est la vie de Jésus en nous. C'est le débordement de la vie de Christ. Christ qui veut dire loin. C'est le débordement de la vie de Christ en nous. Et je pense que vous avez déjà remarqué, l'onction, soit elle peut être attractive. Le fait qu'il y a l'onction en nous, la vie de Jésus en nous, donc il y a la paix, il y a la bonté qui jaillit de nous, la miséricorde, la grâce, ça peut être attractif, les gens viennent vers nous. Mais elle peut aussi être répulsive. Les gens sont jaloux de notre onction. Ils vont nous dire, mais pour qui il se prend là? À la limite, vous priez pour quelqu'un qui est guéri, il peut y avoir des gens qui sont jaloux. Vous avez une parole prophétique, une parole d'autorité, il peut y avoir des gens qui sont jaloux de vos noms, de votre appel, de l'onction qui est en vous, de cette paix qui est toujours là en vous aussi. Vous savez, les gens dans notre travail, ils nous voient. Et même de notre calme et tout ça, mais les gens, ils peuvent être jaloux. Mais enfin, moi, un jour, on m'a même reproché que je ne me mettais pas en colère. Un jour. Non, mais vrai. Mais ce n'est pas pour me vanter. Un jour, on me l'a reproché. Mais vous ne pouvez pas vous mettre en colère, parce que là, ça l'aura arrangé que je me mette en colère. Parce que vis-à-vis de deux personnes. Mais bon, je veux dire, ce n'est pas comme ça qu'on règle forcément les choses. Vous comprenez? Alors donc, l'onction, elle peut être attractive et elle peut être répulsive. Mais n'empêche qu'il faut garder, nous, cette onction. Ça, c'est important. Et même si elle est répulsive, si ça nous attire des ennuis, eh bien, on doit continuer notre chemin. Parce que à des moments, quand on se dit, ben, si on se fait autant d'ennemis, eh ben, autant que notre onction, elle diminue. Et puis du coup, on ne rentre plus dans ce que Dieu nous demande. Ni de prier pour la guérison, ni de parler en vérité, etc. Vous comprenez ça? Et parce que vous vous rappelez dans l'évangile, parce que le message c'est changer de vêtements. Mais je me dis combien c'est important que nous on puisse avoir le vêtement de Jésus. Rappelez-vous de cette femme à la perte de sang, depuis 12 ans, elle avait tout dépensé. Et elle a dit, il y avait une foule qui pressait Jésus. Et elle s'est dit, mais si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Ça, c'est des phrases, des cris. Ça vaut de l'or. Ça, si je peux seulement, vous voyez, la foi. Rendez compte, elle touchait le bord du vêtement de Jésus. Parce que son vêtement, il était loin, parce que Jésus était loin. Et je me dis, le réveil, ça sera ça. Si quelqu'un touche simplement le bord de ton vêtement, le bord de mon vêtement, et bien que la personne soit guérie, et bien là, je peux vous dire qu'il y a le réveil. Comprenez que notre vêtement soit loin. Et l'onction, elle va jamais se mettre sur ce qui est des choses charnelles. Donc le charnel doit partir. C'est pour ça qu'on passe par des temps de dépouillement. Parce que l'onction ne va jamais se reposer sur la chair, mais sur ce qui est loin. L'onction, elle va être sur ce qui est loin, c'est-à-dire ce qui est sanctifié par Dieu, pour que la gloire revienne à Dieu. Et donc, et cette femme, elle a été guérie instantanément. Instantanément, Jésus a réalisé qu'il y avait une force qui sortait de lui. Alléluia. Donc, voyez, avoir ce vêtement de Jésus, et pour avoir ce vêtement de Jésus, cette onction, eh bien, on peut passer par des temps de dépouillement parce que Dieu poursuit son but. Et quel était le but pour Joseph? Eh bien, le but pour Joseph, c'est qu'il était celui qui donne à manger. Vous savez, si Joseph n'avait pas été là, eh bien, toute sa famille serait morte par la famine. Parce que quand les frères sont arrivés en Égypte, ils avaient déjà essayé de survivre avec 2 ans de famine. Mais quand ils sont arrivés, il allait encore avoir 5 années de famine. Chaque année, ils n'auraient pas survécu. Et donc Joseph a été celui qui a béni sa famille, qui a donné à manger à sa famille, et pas seulement à sa famille, qu'il a pu sauver, mais il a aussi sauvé tous les Égyptiens. Vous voyez, là où on est, eh bien on peut sauver notre nation, parce qu'on est l'homme et la femme d'onction, là où Dieu nous veut. même s'il n'avait pas du tout envie d'être dans ce pays-là. Il ne voulait certainement pas quitter son nid familial et son nid douillet et sa zone de confort d'être auprès de son vieux papa. Il s'est retrouvé en Égypte et il a pu sauver toute une nation. Un homme, vous vous rendez compte, si ce n'est pas merveilleux ça? Et ça, c'est notre mission. Parce que Jésus a dit à ses disciples, au moment de la multiplication des pains, « Donnez-leur vous-même à manger. » C'est notre mission, donnez-leur vous-même à manger. Et on voit que Joseph a dit, c'est pour sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et alors on voit dans Matthieu 24, 45, que Dieu confie cette mission de donner à manger, il ne la confie pas à n'importe qui. Et c'est ce qui explique pourquoi on passe par des temps de dépouillement. Il ne la confie pas à n'importe qui. Et c'est dans les prophéties, justement, de la fin des temps. Donc dans les temps dans lesquels nous sommes. Il est dit, dans verset 45 du Matthieu 24, « Quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu ? Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. » Comme il lui a demandé. Et notre mission, c'est de distribuer à chacun sa nourriture au moment voulu. Mais pour ça, il y a trois qualités que nous avons besoin. C'est noté. Un cœur de serviteur, être fidèle ou loyal et être sensé. Être sensé, oui, être intelligent, mais selon Dieu. La sagesse selon Dieu, pas la sagesse humaine. Ne sois pas point sage à tes propres yeux, mais cette compréhension des choses de Dieu, du cœur de Dieu, par l'esprit. Trois choses. Et ces trois choses-là, vous savez où elles se forgent, où on peut acquérir ces choses-là ? Dans l'humilité. Dans l'humilité. Dans ces temps de dépouillement qu'on peut avoir ce cœur de serviteur fidèle et sensé. Et c'est ce que le Seigneur veut, à son retour, nous trouver de cette manière-là, en train de distribuer la nourriture. Et Joseph, vous voyez, a pu, pendant les années d'abondance en Égypte, les sept premières années, eh ben, il a pu faire le plein dans les greniers, dans les entrepôts. Et quand il y a eu la famine, il a suffi d'ouvrir les entrepôts. Alors est-ce que nous, on est en train de faire le plein ? Est-ce que nous, on est en train de remplir nos greniers de blé ? C'est-à-dire, est-ce que nous, on est en train d'être remplis de la puissance du Saint-Esprit, remplis de la parole, que quand la foule va être là, inquiète et abattue, quand la foule va être là, avec ses sentiments de culpabilité, comme les frères de Joseph, quand ils sont arrivés en Égypte, ils avaient encore toujours ces remords, toujours ces tourments, toujours cette culpabilité d'avoir tué leurs frères. Est-ce que nous, on va être là, comme quand les fils prodigues vont revenir, est-ce qu'ils vont pouvoir trouver du pain en abondance dans la maison du Père ? Vous comprenez ? C'est ça notre mission, de donner à manger. Dieu nous prépare pour qu'on puisse donner à manger, qu'on puisse ouvrir ses greniers. Le pain, c'est nous qui l'avons. Et on ne sait pas ce qui va se passer dans les années à venir. Ça pourrait être même le pain, le vrai pain physique, j'ai envie de dire. Et bien sûr, le pain de la parole. On doit être appelé à ceux qui pourvoient aux besoins des autres. Alléluia. À tout niveau, au niveau physique, au niveau, j'ai envie de dire, naturel, et bien sûr, au niveau spirituel. Qu'ils soient remplis de la parole de Dieu et qu'ils connaissent le Dieu de vérité et qu'ils connaissent le salut. Alléluia. Alors, ça, c'était donc la deuxième étape. Et puis après, donc, la troisième étape, il a été dépouillé de son vêtement, il a été vendu aux Madianites, qui sont donc arrivés en Égypte, vous voyez, c'est comme ça qu'il est arrivé en Égypte. Et la troisième étape, c'est donc Genèse 39, versets 1 à 6. Quand Joseph arriva en Égypte, il fut acheté aux Ismaélites qui l'avaient conduit là-bas par un haut fonctionnaire du Pharaon nommé Potiphar, qui était le commandant de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph. Vous voyez l'onction attractive, hein ? Et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi, Joseph obtint la faveur de son maître, qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait dans sa maison comme au champ. Cette troisième saison, ce troisième vêtement pour Joseph, c'est le vêtement de l'intendant. C'est quand même mieux, hein, hein. On a enlevé sa tunique, et maintenant il a le vêtement de l'intendant, le vêtement du majordome. J'ai appelé ça la saison où tu reprends ta respiration. La saison où tu peux enfin souffler. La saison un petit peu de la transition. La saison de grâce. La saison de la faveur. La saison aussi de préparation et de formation. Car Dieu poursuit son but. C'est toute cette saison-là. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. On peut avoir des temps de dépouillement, puis tout à coup, là maintenant, il a une fonction tout de suite déjà d'autorité. Lui, l'inconnu, lui, le petit berger, lui, l'esclave. Il se trouve là en train maintenant de gouverner tout un domaine, une maison et des champs, etc. Vous vous rendez compte? Et puis il a le vêtement de l'attendant. Formidable. Et c'est vrai que pendant ce temps-là, Dieu préparait Joseph. Il a quelque part fait le contraire, d'une certaine manière, hein, de Moïse. Moïse, lui, connaissait l'Égypte, et puis il a dû partir dans le désert. Et là, Joseph, il a connu un temps de dépouillement, et maintenant, il fallait qu'il connaisse l'Égypte. Et le fait qu'il était là le bras droit de Potiphar, eh ben, il a découvert les richesses de l'Égypte, il a découvert les faiblesses de l'Égypte, il a découvert l'esprit d'un pays, toute une mentalité. Il a appris à gouverner en vue de son appel, où il allait après gouverner tout un pays. Ça a été un temps de préparation et en même temps un temps de faveur, de bénédiction. On voit de toute façon dans l'histoire, il faut savoir que dans les moments les plus durs de notre vie, il y a toujours la faveur de Dieu qui nous précède. Ça, c'est rassurant. La faveur de Dieu est toujours là. Voilà, donc il est sorti de sa citerne, il est sorti de son désert, là, avec les Madianites, et maintenant, là, il a une place qui est, quand même, qui est bonne, où il est dans une maison, où il dort, hein, dans, j'ai envie de dire, dans une belle chambre, un bon lit, on va dire. Hein, voilà, ça, c'est ce temps. Et dans notre petite tête, on pourrait dire, oh, ça y est, c'est bien parti maintenant. Joseph, t'es sur les bons rails, là. Maintenant, t'as déjà le vêtement de l'intendant. Donc maintenant, il faut simplement gravir les échelons. Potiphar, eh ben, il est déjà proche du pharaon, puisqu'il est le commandant de la garde royale. C'est un haut fonctionnaire. Donc maintenant, Joseph, c'est bien parti. Tes rêves vont s'accomplir. Il n'y a plus qu'à gravir les échelons, puis tu vas devenir premier ministre, tu vas devenir le bras droit de pharaon. Pensez pas, on penserait comme ça. Eh bien, non. Non. Arrêt sur image. Non, c'est pas encore le temps, c'est pas encore le moment. Dieu n'a encore pas fait tout son travail à l'intérieur du cœur de Joseph. Mais on va se dire quand même, Dieu, c'est quand même les plus belles années de la vie de Joseph, entre 17 et 30 ans. 13 années. 13 années où le Seigneur l'a préparé. Parce que son appel était grand. Et il fallait que la gloire revienne à Dieu seul. Et donc il fallait que le cœur de Joseph soit vraiment pur. Pur, complètement pur. Alléluia. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez, il y a eu la femme de Potiphar. Il n'y avait encore pas la loi sur l'harcèlement sexuel. Mais là, c'était la femme maintenant qui harcelait l'homme. Hein? Et donc, elle a vu que Joseph, vous voyez, hein, je vous dis, c'est les plus belles années. Un bel homme. Hein, c'est noté hein, qu'il est beau, tout pour plaire. Et bien sûr, chaque jour, c'est pour ça que je vous dis, c'est de l'harcèlement. Chaque jour, elle revenait à la charge. Joseph, couche avec moi. Joseph, couche avec moi. Pas simple pour un homme de cet âge-là, célibataire, pas simple. Et Joseph a dit non, pas question, je vous raccourcis, hein. Mais Potiphar m'a tout donné, sauf toi. Et je ne vais certainement pas déplaire ni à mon maître, ni à Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné, quand dans la maison il n'y avait pas de domestique, vous voyez, c'est toujours comme ça, hein, hein, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Eh bien, au verset 12 du chapitre 39, elle a agrippé Joseph par son vêtement. Encore une fois, le vêtement. C'est toute une histoire de vêtements, la vie de Joseph. Elle l'a agrippé par son vêtement, ce vêtement de l'attendant, hein, là, en disant, viens coucher avec moi. Mais il s'enfuit, lui abandonnant son vêtement entre les mains et s'élança dehors. Quand elle vit qu'il s'était enfui dehors en lui laissant son vêtement entre les mains, elle se mit à crier pour appeler ses domestiques. Puis elle leur dit « Voyez cela, on nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié très fort. Et quand il a entendu que je poussais des cris pour appeler à l'aide, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Elle garda le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'au retour de son mari à la maison. Alors elle lui raconta la même histoire. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi, mais quand je me suis mise à crier et que j'ai appelé au secours, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Quand le maître de Joseph a entendu le récit de sa femme qui lui disait « Voilà comment ton serviteur s'est comporté envers moi », il se mit dans une grande colère. » Bien, voilà. Voilà. Voilà quand on sert Dieu. Vous voyez, voilà ce qui se passe. Vous allez dire « C'est dur quand même. » Et j'ai appelé cette saison, comment j'ai appelé cette saison ? La saison du test de l'obéissance. La saison de l'humiliation choisie. Tout à l'heure, vous vous rappelez ? Je vous ai parlé de l'humiliation subie. Mais là, c'est une humiliation choisie. Joseph, le fait qu'il a subi une humiliation, Joseph a grandi dans la maturité. Et il y a des moments dans notre vie chrétienne on ne subit pas forcément toujours des humiliations. Mais il y a des moments, là, c'est une question maintenant, où Dieu voit ce qu'il y a dans notre cœur et quels sont nos mobiles. Et là, c'est l'humiliation choisie. On préfère plaire à Dieu qu'aux hommes. Et on décide de ne pas faire du tout de compromis. Même si on doit abandonner notre vêtement qui nous donnait quand même une certaine prestance, qui nous donnait un certain honneur, une certaine autorité, comme ce vêtement de l'attendant. De nouveau, cette zone de confort, il doit l'abandonner. Quand il abandonne son vêtement, il sait très bien ce qui peut se passer. Il sait très bien même qu'il peut mourir. Parce que je vais vous dire, Potiphar, sachant ça, normalement Joseph aurait dû mourir. C'était ça à l'époque. Quelqu'un qui aurait soi-disant violé son épouse, c'était la mort. Mais bon, Potiphar, il connaissait au fond de son cœur Joseph. Il avait bien compris qui il était. Il l'avait vu. Il avait vu la bénédiction qu'il avait eue dans sa maison du fait que Joseph était là. Et il s'est dit, oh, bien sûr, il n'a pas voulu discréditer sa femme. C'était quand même de mauvais goût. Donc, il a choisi, on va dire, le moindre mal et il l'a mis en prison. Mais sinon, c'était la mort. Alors, on voit donc dans cette. Alors, on voit toujours que ce vêtement, il sert de pièce à conviction. Alors, et ça, c'est depuis le début de la vie de Joseph. Il y a toujours un complot de mensonges, mais le vêtement est là. Alors, soit on fait passer Joseph pour mort, vis-à-vis de son père. Là, c'était, là, mais vois bien, la tunique, c'est bien la tunique de ton fils, trempée de sang. Et puis maintenant, ben voilà, mais vois, le vêtement, il est là, c'est bien son vêtement, donc c'est bien lui. Et là, on le fait passer pour un violeur. Alors, entre choisir entre être mort ou violeur, bon, hein, violeur, c'était encore pire pour sa réputation, en tant que chrétien. Et donc, où sont les promesses de Dieu ? Et on passe maintenant à la cinquième saison. Vous connaissez l'histoire. Donc, il a été mis en prison, au verset 20. Au verset 21, il est dit que l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Celui-ci lui confia le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction de tout ce qu'on y faisait. Il ne s'occupait plus de rien de ce qui passait par la main de Joseph. Parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. La faveur de Dieu était toujours là. Donc cette cinquième saison, j'ai mis le vêtement du prisonnier, ou la saison de l'épreuve de la foi, la saison de la solitude, la saison de l'oublié et la saison de la préparation profonde de son cœur. On pourrait dire, mais Dieu, où es-tu ? Ça ne vous arrive pas de dire, mais Dieu, où es-tu ? Où sont tes promesses ? On a la réponse, Dieu était avec Joseph. Ça fait du bien ça, hein ? On dit, Seigneur, où es-tu ? Dieu, il est avec chacun de nous. Même quand on se retrouve des fois dans des endroits qu'on n'aurait pas voulu, on se retrouve un peu comme prisonnier, on se dit, mais je ne suis pas encore dans la plénitude de ce que tu veux pour moi, ni dans la plénitude de l'appel que tu as pour moi, je ne suis pas dans la plénitude de la bénédiction que tu as pour moi. Je le sens bien. Il n'y a encore pas de percée aussi dans ma famille, etc. Dieu est là et lui témoigne de la bonté. Et j'ai envie de dire, Joseph n'était pas prisonnier. Joseph n'était pas prisonnier. Il était un homme libre au fond, à cause de la faveur de Dieu et de la grâce de Dieu qui était là. à cause de l'amour de Dieu qui l'animait. C'était en fait l'homme le plus libre du monde, parce que celui qui marche par l'esprit ne sera jamais prisonnier. Celui qui marche par l'esprit ne sera jamais prisonnier. Et pourquoi je vous dis ça, que c'était un homme libre? Parce qu'on voit après plus loin. Parce que vous voyez, Dieu préparait encore quelque chose dans Joseph. Il avait dû prendre soin d'un domaine, des biens, d'un homme. Maintenant, il devait prendre soin des plus faibles, des détenus. Mais il avait la direction de nouveau de ce qui se passait. Il devait toujours gouverner quelque part, prendre des décisions. C'était une préparation pour plus tard, pour gouverner ce pays. C'était toujours une préparation. Mais en même temps, on voit donc là que Joseph, à cause de cette humiliation, je veux dire, choisie, et qu'il se retrouve donc en prison, là il apprend, il y a une préparation intensive dans son cœur. Il doit apprendre à ne pas juger, à pardonner. Pardonner à la femme de Potiphar, pardonner à Potiphar lui-même, pardonner à ses frères. Il a fallu là maintenant qu'il fasse quelque part plus rien. Enfin, il s'occupait de la prison, mais avoir moins d'activité, et que Dieu maintenant était là, vraiment en direct avec Joseph, là, avec son cœur. Il y avait donc tout ça, il fallait qu'il soit libéré de toute amertume, de toute colère. Quel parcours! Et on voit que Joseph a su garder son cœur et que l'Esprit de Dieu habitait en lui. Parce que quand les deux, là, le chef des échansons et deux autres hauts fonctionnaires de Pharaon se sont retrouvés en prison et qui ont eu un rêve, le chef des panetiers, donc qui fournissait le pain, et le chef des échansons qui fournissait le vin, eh bien Joseph les servait. Et on voit qu'il était libre à l'intérieur de lui-même. Et qu'il n'était pas replié, parce que souvent la souffrance fait que des fois on se replie sur nous-mêmes. On est centré sur nous-mêmes et on ne pense qu'à nous-mêmes. Et on devient des individualistes, comme disait tout à l'heure Jean-Luc. Et on n'a plus cet esprit communautaire. Et là on voit que le cœur de Joseph était gardé, parce qu'il a vu la tristesse sur le visage de ces deux hommes quand ils avaient fait ce rêve. Il a dit, mais pourquoi vous avez l'air inquiet aujourd'hui? Pourquoi vous avez l'air abattu? Oh! Ça montre que l'Esprit de Dieu était en lui. Et quand ces hommes ont dit leur rêve, l'Esprit de Dieu était toujours dans Joseph. Parce qu'immédiatement, il a eu la compréhension de ses rêves. Et par le Saint-Esprit. Et quand il est sorti de la prison, vous croyez qu'il a fallu retaper Joseph spirituellement? Il a fallu qu'on lui donne un bon message de foi, qu'on prie pour lui, qu'il ait une relation d'aide? Dès qu'il est sorti de la prison, quand il a écouté le rêve de Pharaon, qui était vraiment très agité à cause de ce rêve, il avait compris l'importance de ce rêve qu'il avait eu deux fois, et bien il a tout de suite su l'interpréter, et non seulement l'interpréter, mais il a su donner la solution pour le pays. Il a eu une parole de sagesse. Donc ça montre que Joseph, il y avait toujours l'Esprit de Dieu qui l'animait, malgré les épreuves. Il a toujours su, il a toujours eu sa relation avec le Seigneur, où il a su garder son cœur. Alors à un moment donné, quand je dis que c'était aussi la saison de l'oublier, pendant 2 ans, il a été oublié. Parce que quand il avait interprété le rêve au chef des échansons, il a dit, ben écoute, si à un moment donné, quand même, quand tu vas être près de Pharaon, si tu peux parler de moi. Il a cherché un petit moyen humain. Il a cherché un moyen humain. On va dire, c'est humain de faire ça. Et vous savez, j'ai reçu, début janvier, un diaporama d'une amie là, d'Allemagne. Et c'était noté, quel est le psaume le plus long? Quel est le psaume le plus court? Ouais, 119, c'est bon. 117. Et quel est le psaume qui est au centre de la Bible? 118. Et quel est le verset central de la Bible? 118, verset 8, parce que 118, ça fait 1188. Il y a 594 chapitres avant, 594 chapitres après. Et vous savez donc quel est le verset central? Eh bien, c'est mieux vaut se réfugier en Dieu que de compter sur les hommes, sur les humains. Et à la suite, c'est mieux vaut se réfugier en Dieu que de compter sur des gens importants. Et moi, le Seigneur, des fois, il me montre ça. Des fois, on s'appuie. On dit, voilà, bah, lui, il est quand même, il a une fonction, ça peut nous intéresser. Vous savez, le monde agit tellement avec le piston. C'est pas vrai? Trouver un emploi, faut quand même être bien avec ça. Et du coup, on peut, même en tant que chrétien, on pourrait accepter des compromis à cause de ça. Et voilà, et voilà ce que a dû apprendre encore Joseph, de ne compter que sur Dieu. Mais quand on compte que sur Dieu, on a une victoire totale et pleine, et la gloire revient à Dieu. Le chef des échansons, il l'a oublié pendant 2 ans. Après, oui, quand il y a eu le rêve de Pharaon, là, il s'est souvenu. qu'il y avait quelqu'un qui lui avait expliqué son rêve. Mais il faut aussi apprendre ça au moment de l'épreuve, qu'on ne compte que sur Dieu. Et puis maintenant, on va arriver au verset qui a été le déclencheur de mon message, Genèse 41, parce que je sais que c'est ça maintenant pour nos vies et pour l'Église, c'est Genèse 41, verset 14. Donc, Pharaon a eu ses rêves, vous vous rappelez ses rêves, hein, vous rappelez les vaches maigres qui mangent les vaches grosses, les épis tout minces, qui mangent les gros épis, hein, qui donc montraient qu'il allait avoir donc 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Alors, il a été agité par ses rêves. Pharaon, il a bien compris que ça avait certainement quelque chose d'important. Des fois, je me dis que les gens, des fois, du monde, sont des fois plus sensibles à l'esprit, parfois que nous, parce que Pharaon s'est bien rendu compte qu'il fallait à tout prix qu'il ait l'explication. Parce que c'était hyper important pour ce temps. Et personne ne pouvait donner l'explication. Tous ces magiciens tiennent en nul. Et moi, je me dis, il y aura un temps où des hommes importants, des rois, des présidents, auront besoin d'avoir des hommes et des femmes de Dieu qui consultent Dieu pour pouvoir leur donner l'explication pour que ces présidents puissent dormir sur leurs deux oreilles. Tellement qu'ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'ils vont se sentir complètement dépourvus, démunis. Et là, il y en a besoin. Et c'est pour ça qu'on passe par des temps parfois d'épreuves, parce qu'il nous faut une génération de Joseph et de Joséphine. Hein? Alléluia. Alors, verset 14. Alors, le Pharaon envoya chercher Joseph. Et sur le champ, on courut le faire sortir du cachot. On le rasa, on le fit changer d'habit et on l'introduisit auprès du Pharaon. Et ça a été ce déclic pour moi, ce message. Préparez-vous à la soudaineté de Dieu. Il y a des moments, c'est long, c'est lent, mais Dieu est avec nous. Il y a sa faveur qui est là, qui est preuve aussi. Et Dieu nous prépare à tout niveau, à notre appel, à la fonction que le Seigneur nous demande, et il prépare surtout notre cœur. Et à un moment donné, tout se précipite. Il faut le raser, il faut le changer de vêtements, il faut qu'il soit propre, etc. Sur le champ. Et le Seigneur me montre que maintenant, ça c'est son appel pour nous et c'est son appel pour l'Église. On passe du cachot au trône. On passe à une saison royale, à une saison où il y aura vraiment l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu pour nos vies. Et c'est une année de changement 2007, une année royale. Je ne fais pas de la politique, hein. Mais ça sera une année royale, mais dans le sens de du royaume de Dieu. Alléluia. Mais préparons-nous à cette soudaineté, parce que vous savez, les transitions comme ça, eh ben on a intérêt de s'y préparer. Croyez pas comme ça. S'il y a toute une foule qui vient là maintenant, qui entre dans l'église, est-ce que vous êtes prêts à leur donner à manger? Est-ce que vous êtes préparés? Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en vous pour que des fois une seule parole leur fasse du bien? Pas 1000 paroles, une. Est-ce que s'ils touchent simplement le bord de votre vêtement ou si vous priez pour eux, ils seront instantanément guéris? C'est ça que le Seigneur nous prépare. Du cachot au trône. Et donc, ça c'est donc la saison, comment je l'ai appelée, la saison de la percée, la saison du dénouement, la saison de la délivrance, la saison de la résurrection. Personne ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Regardez la création de l'État d'Israël. C'est écrit dans Ésaïe. Un jour. Il y a eu la nation d'Israël. Quelle percée soudaine pour Joseph. Vous savez, quand il s'est levé le matin, il n'a pas pensé que c'était son dernier jour dans la prison. Vous savez, quand on se lève le matin, personne ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Et que vous pouvez tout d'un coup, le Seigneur, vous avez été humilié, tout d'un coup le Seigneur peut vous élever, peut vous amener à parler à quelqu'un d'important, etc. D'être consulté, de pouvoir prier pour quelqu'un. C'est formidable. Et on peut dire que vraiment, Joseph, il a connu une mort taillée sur mesure. La foi de Joseph dans les promesses de Dieu fut mise à l'épreuve au plus haut degré. Mais c'est seulement dans la prison que nos blessures peuvent être guéries et que les cicatrices qu'elles laissent, elles peuvent rayonner de la puissance de la résurrection de Jésus. Parce qu'après, quand Joseph a revu ses frères, il leur a permis bien sûr de faire passer... qui passe un test pour voir s'ils ont changé, pour les amener à la repentance. Mais Joseph, vous savez, il a dit cette merveilleuse parole. Ça, j'ai redécouvert cette parole aussi, c'est Genèse 45, verset 4. Il a pu dire à ses frères, « Venez près de moi, comme Jésus, « Venez près de moi. » Il leur a parlé affectueusement, il a dit « Mais ne vous laissez pas troubler, ne vous tourmentez pas, ne vous accablez pas de remords, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. » Il a pu leur enlever de leur cœur toute culpabilité. Mais vous vous rendez compte, parce que je me dis « Dieu est bon avec Joseph. » Mais Dieu était bon avec ses frères. Vous savez, nous, qu'est-ce qu'on aurait dit ? Mais c'est ses frères maintenant qui peuvent aller en prison pendant plusieurs années. Là, ils sont restés que quelques jours avec Joseph. Pas longtemps, hein, le temps que leur cœur se prépare. Et c'était encore toujours dans le but du salut, qu'ils soient libérés de leur culpabilité. Mais ils n'ont pas passé toutes les années comme Joseph. Et vous vous rendez compte, et nous, des fois, souvent on juge très vite. Des fois, je me dis, il vaut mieux, comme dit le roi David, il vaut mieux tomber entre les mains de Dieu qu'entre les mains des hommes. Parce que les frères de Joseph, ils ont été sauvés aussi. Et les Égyptiens aussi ont été sauvés de cette famine. C'est ça qui est merveilleux, c'est que Dieu est bon envers un homme, mais il a été bon aussi envers toute la famille de Joseph. Et ses frères ont pu être enfin libérés de tous ces remords, de toute cette culpabilité qu'ils avaient. Moi, je pense qu'ils n'ont pas pu jamais regarder leur père droit dans les yeux. Vous ne croyez pas, quand ils étaient à table tous ensemble? Vous croyez qu'ils ont pu dire que leur frère était mort quand ils savaient de toute façon qu'il était peut-être bien quelque part? Ils n'ont jamais pu. Vous voyez, vivre des années comme ça. Enfin, les frères aussi ont pu enfin connaître aussi une percée dans leur vie. On parle toujours de Joseph qui a connu une percée, mais les frères aussi ont enfin connu une percée. Et moi, je me dis que de notre percée personnelle va couler aussi, enfin va découler la percée de ceux qui nous entourent. Donc ça vaut la peine. Ça vaut la peine de garder notre cœur. Ça vaut la peine d'être libéré de toute amertume et de pardonner. Ça, c'est une puissance. Parce que quand il y a le pardon, je veux dire, il y a la vie qui jaillit de nous. La percée de ceux qui nous entourent, de la percée de notre famille, va dépendre de notre percée à nous. Alléluia. Quelle percée, une percée soudaine pour Joseph. Et c'est pourquoi, là, justement, dans ce diaporama, là, je n'ai pas fini, mais quand je vous ai dit le psaume 118, verset 8, et ça se terminait de cette manière-là. Il disait, quand tu as des difficultés, quand tu rencontres des difficultés, souviens-toi toujours, la foi ne te les fait pas contourner, elle te fait passer au travers. Et alors cette phrase m'a vraiment fait du bien dans ce début d'année. Lorsque tu renonces au désir de contrôler ton avenir, tu obtiens le bonheur. Parce que Joseph, à un moment donné, quand il a essayé d'avoir un appui avec le chef de l'échanson, il voulait encore quelque part contrôler son avenir. Et bien même ça, on doit l'abandonner. Abandonner. Vous savez, vraiment, je voudrais vraiment que cette année, vous comme moi, on ait réellement ce repos intérieur. Qu'on renonce à contrôler notre avenir. Notre famille où on ne voit pas forcément les conversions, notre travail, le réveil qu'on veut pour l'église, etc., pour la région. Qu'on refuse, qu'on renonce et qu'on puisse vraiment se reposer dans le Seigneur, qu'on passe simplement ces moments d'intimité avec notre Seigneur pour que notre foi, après, elle augmente. Et qu'on sait que toutes les promesses de Dieu vont se faire. Et que tout d'un coup, il y aura une percée. Tout va se précipiter. Et donc, quand j'ai vu cette percée de Joseph, j'ai repensé à au roi Yehoiakim dans Jérémie 52, 31-32. C'est-à-dire, c'est la fin de Jérémie. On voit que Jérémie, il a vécu beaucoup de choses. Jérémie, c'est pas un livre facile forcément à lire. Et on voit que ce livre de Jérémie se termine par une note d'espérance. Et on voit là encore toute la grâce de Dieu et aussi toute la soudaineté de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur fait maintenant. Et j'ai envie de dire, accrochez vos ceintures. Parce que maintenant, il y aura une percée et il faut qu'on soit prêt. Et on voit donc que ce roi Yehoiakim, il faut savoir qu'il a été roi, je vais rapide, hein, je ne vais pas faire long avec ça, parce que je vois que le temps passe très vite. Il a été roi à l'âge de 18 ans, chose non plus pas facile, hein, être roi à l'âge de 18 ans. Et il a régné 3 mois, 10 jours. Et il a été déporté, 37 ans à Babylone. Et on dit que la 37e année, donc dans Jérémie 52, verset 31, la 37e année de la déportation de Yehoiakim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, vous voyez que c'est précis avec le Seigneur, hein, le 25e jour du 12e mois, Évil-Mérodac, roi de Babylone, gracia Yehoiakim, roi de Juda, l'année de son accession au trône de Babylone, et le fit sortir de prison. Il le traita avec bonté, et lui accorda une situation supérieure à celle des autres rois exilés avec lui à Babylone. Il lui fit quitter ses vêtements de prisonnier, On vient toujours à l'histoire des vêtements. Il lui fit quitter ses vêtements de prisonnier et l'admit à prendre ses repas à sa table jusqu'à la fin de sa vie. Le roi de Babylone pourvu à son entretien régulier, jour après jour, aussi longtemps qu'il vécut. Voilà ce que le Seigneur fait. Pourtant, ce roi a fait même ce que l'Éternel considérait comme mal. Il a été déporté 37 ans. Donc, il en est sorti à l'âge de 55 ans. Et il y a eu ce roi, le fils de Nabuchodonosor, là, qui, quand il est devenu roi, il était à peine roi qu'il a libéré cet homme de la prison. Un roi qui n'a régné que 2 ans. On dirait que l'appel de ce roi-là, Evil-Merodach, je dirais que son appel, c'était à la limite presque uniquement celui-là. C'était de libérer ce roi de Juda. Et Dieu a fait grâce. Cet homme était arrivé tout d'un coup, pareil, on a quitté ses vêtements de prisonnier le 25e jour, et tout d'un coup, il s'est retrouvé à la table du roi. Et puis, il a pu se reposer, son entretien était assuré, il a eu à manger tous les jours, il a vécu dans un palace, quoi. Vous voyez ce que le Seigneur fait ? Et je voudrais lire avec vous aussi ce verset dans Ésaïe 60. Ésaïe 60, verset 21, ça parle justement de la fin des temps. Ton peuple sera tout entier composé d'hommes justes, et ils posséderont le pays pour toujours. Ils sont les rejetons que j'ai plantés moi-même, l'ouvrage de mes mains, pour manifester ma splendeur. Alors écoutez bien au verset 22. Le plus petit d'entre eux deviendra un millier, le plus insignifiant une nation puissante. C'est moi, moi l'Éternel, qui hâterai en leur temps ces événements. Dieu maintenant se presse et se hâte pour que le plus petit va devenir un millier, le plus insignifiant une nation puissante. Ça vous encourage pas ça? Dieu hâte ces choses-là en leur temps. Et c'est le temps maintenant, c'est ce que le Seigneur vraiment m'a montré. Je me sens bien faible de vous dire ça, mais je sais que le Seigneur veut vraiment nous dire ça. L'Église, vous personnellement, vous allez passer du cachot au trône, mais avec Dieu, avec un cœur pur. C'est-à-dire que la gloire, vous n'allez pas la prendre pour vous-même, parce que votre cœur aura été purifié. Et on va être appelé à être des libérateurs pour notre famille, pour nos collègues de travail, pour notre région, pour notre nation. On est appelé à leur donner à manger. Et Dieu hâte ces choses. Donc préparez-vous à cette soudaineté. Et la dernière saison, je vois que le temps passe vite, la dernière saison, et ça c'est quelque chose de merveilleux. Vous savez, Dieu ne nous doit jamais rien. Il n'est jamais notre débiteur. C'est pas merveilleux ça? Vous savez ce qui s'est passé pour Joseph? Est-ce que vous savez? C'est la 7e, justement. Tiens, c'est la 7e. Je vois ça maintenant, c'est la 7e. On est en 2007. C'est la 7e. Et dans l'année hébraïque, c'est quoi? 57, 67. Il y a 2-7. Ouais. Et je disais dans Elijah List au Canada, il célèbre toujours le premier bateau qui arrive dans le port Saint-Laurent, hein, à Montréal. À minuit 13, et il y a eu un bateau qui est arrivé. Et vous savez ce qui est écrit sur le bateau? Glorie, gloire. Et le premier bébé qui est né au Québec, enfin au Canada, pareil, minuit 13. Et pour eux, c'est les 12, le chiffre 12, parce que Jean-Luc me parlait des 12. Et donc, c'est pour eux le gouvernement des 12, juste, les hommes justes, les 12, les 12 apôtres, 12 tribus. Chiffre 12, c'est le chiffre du gouvernement. Donc, le gouvernement, c'est quelque part les chrétiens qui doivent gouverner, en esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? Qui, peu importe, va être le président, mais ce sera important que le président consulte des hommes et des femmes de Dieu dans l'esprit. Et 13, c'est de savoir qu'il y a un combat, parce que 13, c'est le chiffre de l'antéchrist. Donc il y a un combat. Et quand on voit 57, 67, si vous faites 5 et 7, ça fait 12, et 6 et 7, ça fait 13, l'année hébraïque. Donc il y a un combat, mais Dieu est avec nous. Et il nous revêt de ce qu'il a revêtu Joseph, de la robe de Phalin. Alléluia, ce sont les œuvres justes des saints. Et attendez, on ne l'aura pas uniquement au ciel. On croit toujours qu'au ciel, on aura tout, c'est vrai. Mais sur la terre, on va déjà connaître ça. On passe là maintenant du cachot au trône. Et dans Genèse 41-42, c'est la dernière saison de Joseph que j'ai appelée la saison royale, la saison de glorification, la saison d'accomplissement des rêves et des promesses de Dieu. Il y a eu la percée, le dénouement, et maintenant c'est l'accomplissement, c'est la glorification. C'est la saison royale. Et c'est le Seigneur appelle l'Église à cela. À revêtir cette robe de Phalin. Alors c'est 41-42. Alors, on sait que Joseph donc, a interprété ce rêve de Pharaon, et Pharaon a fait un compliment merveilleux à Joseph. Ça, c'est un verset que j'aime beaucoup. Il a dit à tous ses hauts fonctionnaires, à tous ces gens, « Trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu ?» C'est quoi la compétence ? C'est de savoir tout faire ? Avoir beaucoup de capacités ? Avoir l'intelligence du monde ? Avoir être un puits de science ? Non, ça ce n'est que vanité. Jésus dit qu'il réduit la sagesse des sages à néant. La compétence, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et je peux vous dire que le monde attend des gens compétents. Il attend des gens compétents. L'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu qui habite en nous, va nous amener à faire des choses créatives, à créer peut-être des entreprises, à trouver des solutions par rapport au chômage, etc., etc. Et ça, on lit aussi qu'il y aura beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs qui vont créer des choses, des créations d'entreprises, etc. Il faut prier pour notre région aussi par rapport à ça. Qu'il y ait des changements, qu'on ne soit plus la queue, mais qu'on soit la tête. Alléluia. Qu'il y ait une créativité parce qu'il y aura des hommes et des femmes de Dieu qui vont entendre la voix de Dieu. D'où l'importance de passer des moments avec notre Seigneur. Tout vient de là. Être compétent. L'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est ça la compétence. Alléluia. Et Dieu cherche des hommes et des femmes compétents. Dans ce sens-là. Et alors on voit que, au verset, donc Pharaon qui dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé et aussi sage que toi. Tu seras donc à la tête de mon royaume, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Moi-même, je ne serai au-dessus de toi que par le trône. Ainsi, lui dit-il, je te mets à la tête de toute l'Égypte. Et le pharaon retira son anneau de sa main et le passa au doigt de Joseph. Il le fit revêtir d'habits de fin lin et lui suspendit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur son deuxième char et sur son parcours, on cria à genoux. C'est ainsi qu'il le mit à la tête de toute l'Égypte, etc., etc. On voit après, donc, il était âgé de 30 ans. On voit aussi qu'il y a eu une épouse. Et puis qu'après, avant la famine, il a eu vraiment un merveilleux bonheur. Il a eu deux fils merveilleux, Manassé et Ephraïm, les noms que vous connaissez, dont la signification et qui révèlent tout ce qui s'est passé dans le cœur de Joseph. Manassé, celui, Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et ma séparation de la famille de mon père, et Ephraïm. Et je sais que 2007 va être une année de fécondité, car Dieu m'a rendu fécond dans le pays où j'ai connu l'affliction. Dieu nous rend fécond dans le pays, dans les endroits où on a connu les épreuves. Alléluia, c'est pas merveilleux ça? Alors ce qui est merveilleux, c'est que Joseph a retrouvé sa tunique d'une autre manière, et plus belle encore. Ce que le diable lui avait volé par le biais de ses frères, eh bien Joseph l'a retrouvé. Alléluia. Et je crois que combien c'est important maintenant de reprendre tout ce que le diable nous a volé. Il a retrouvé ce qu'il avait perdu et mieux encore. Alléluia. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça? Moi, ça me réjouit, ça. Il a retrouvé d'une autre manière sa tunique multicolore, sa tunique splendide. Il a retrouvé tout, tout. Son onction qui est attractive, et son onction, elle était attractive en Égypte. Le pharaon disait, quand on venait voir Pharaon, il a dit, allez voir Joseph. Faites tout ce qu'il vous dira. Vous voyez, comme Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Comme Marie a pu dire en parlant de Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. On retrouve les mêmes choses, la similitude. Et nous, on est les disciples de Jésus. Alléluia. Jésus, c'est notre maître, notre grand frère, et nous, on est ses disciples. Donc, il a eu ce vêtement de fin lin. Il a eu cet anneau qui lui montrait donc l'autorité royale, puisqu'il pouvait maintenant lui-même signer les documents à la place de Pharaon. Il a eu une belle Mercedes. Elle n'était plus là dans la caravane des Madianites, là secouée avec les chameaux. Il a eu le deuxième char, la voiture la plus belle de près, on dirait nous, prestige, je ne sais pas moi, la plus belle des voitures qui existent. J'en sais rien même, hein, un symbole de prestige. Il a eu un collier d'or au cou. Vous voyez, c'est une année royale. L'or qui évoque la royauté. Et il a eu un nouveau nom. Déjà, Joseph, c'était celui qui ajoute, c'est l'accroissement. Et là, il a eu un nom, bien sûr, égyptien, Tsafnat Paenea, qui veut dire le soutien de la vie. Le soutien de la vie. Il est vraiment la préfiguration de Jésus, le sauveur, le soutien de la vie. Et nous sommes, nous, appelés à ce que la mort recule, à ce que les ténèbres reculent, et à soutenir la vie, à amener la vie. Vous êtes appelés ici à amener la vie dans Wavrin. Alléluia. La vie dans Wavrin. On le proclame ce matin. La vie dans Wavrin. Il a eu une épouse. Il a bien fait de rester pur pour son épouse. Alléluia. Le Seigneur lui a donné une belle épouse. Il a bien fait de résister à cette femme de Potiphar. Il a eu son épouse. Il a eu deux garçons, etc. Il a tout eu. Plus qu'en double. Plus, plein, plein, plein. Et il est dit dans Ésaïe, et je vais donc finir. Ésaïe, on va finir avec Ésaïe 61, verset 7. Et après, je vais lire quelque chose à ce près pour. Le Seigneur m'a montré que c'était une bénédiction pour l'église de Wavrin. Et qu'on va lire ensemble et proclamer. Et comme ça, on va terminer. Ésaïe 61, verset 7. Alors, j'avais mis tous mes petits signets pour tout trouver facilement. Ésaïe 61, verset 7. Au lieu de votre honte, vous aurez double honneur. Et au lieu de l'opprobre, vous pousserez des cris de joie à cause de la part que vous aurez. Car dans votre pays, vous recevrez un patrimoine double. Il y aura pour vous une joie éternelle. Alléluia. Et il dit après, moi l'Éternel, j'aime la droiture. Vous voyez, tout est question de notre cœur. Tout est mobile de notre cœur. Je déteste le vol, etc. Et puis, le Seigneur vraiment m'a montré pour terminer ce message. Là, c'était samedi dernier, quand je pensais à vous. Il m'a dit, c'est vraiment cet esprit m'a dit, lis la bénédiction de Jacob sur Joseph. Lis la bénédiction de Jacob sur Joseph. C'est la bénédiction que Dieu, je le dis vraiment, comme dans toute la simplicité, mais je dis, c'est la bénédiction que Dieu a sur l'église de Wavrin, si vous placez votre foi dans le Seigneur. Ne comptez que sur le Seigneur. Alléluia. C'est vraiment la bénédiction que le Seigneur a pour vous, si vous vraiment vous tendez avec le Seigneur, chacun individuellement et collectivement. Et là, votre foi va grandir, et c'est ce qui va se passer pour vous. C'est vraiment la bénédiction de Jacob sur Joseph, et c'est Genèse 49. Alors voilà, donc le Seigneur m'a dit ça, alors je vous le communique comme je l'ai reçu. Et croyez-le, alors on va le lire ensemble. On va le lire ensemble et on pourra peut-être mettre Wavrin à la place d'Israël. Alors attendez, il faut que je retrouve. Genèse 49. Alors je sais pas, c'était difficile parce que moi j'ai le semeur. Hein. Alors comment on va faire ? Pour que ça soit pas un brouhaha, je vais le lire et vous allez lire derrière moi chaque verset. Voilà, parce que je crois que vraiment, mais alors vraiment je vais vous dire quelque chose. On va le faire vraiment comme un acte prophétique. Est-ce que vous êtes d'accord ? On est loin, on est quoi ? Le 28 janvier 2007, c'est le début de l'année, et je sais que le Seigneur veut amener un changement dans notre région. Vous avez vu ce vent qui a secoué la région, et hier j'ai lu que certaines régions vont connaître le vent, et nous on l'a déjà connu, parce que ça signifie qu'il y aura un changement pour ces régions qui vont connaître ce vent au niveau naturel. Alors ça m'a réjoui. Et tout le Nord, c'est tout le Nord, la Belgique et l'Allemagne, c'est ça Jean-Luc ? Voilà. Toute une grosse région. Oui, oui. Alors. Oui. Oui, aussi. Ouais. Voilà. Alors, j'ai lu ça hier et je me suis dit, mais ça, alors, c'est formidable. Et je vraiment, vraiment, maintenant qu'on le proclame et que vous croyez à ça, ne dites pas, on a une proclamation de plus, on lit. Non, il faut mettre votre cœur et le relire quand vous, des fois vous sentez votre foi qui est vacillante. Votre attitude détermine votre altitude. Tout dépend de nos réactions. Et Joseph a eu les bonnes réactions, en fait. Et c'est ça qui l'a amené. Sinon, il aurait pu aussi tout perdre s'il était resté dans l'amertume, dans le repli sur lui-même et dans la pitié de soi. Il aurait tout perdu. Et les rêves ne se seraient jamais accomplis. Wavrin est un rameau fertile. D'un arbre plein de fruits, planté près d'une source. Ses branches grimpent et s'élancent par-dessus la muraille. Des archers le provoquent, le prennent à partie et le harcèlent de leurs flèches. Vous voyez, c'est pas toujours facile. Mais son arc, et faites le geste, mais son arc reste ferme. Car ses bras pleins de force.
Car ses bras pleins de force
conservent leur souplesse.
Amen.
Grâce au secours du puissant de Jacob. Qui est le berger et le roc sur lequel Wavrin se fonde. Oui, le Dieu de ton père viendra à ton secours. Le Tout-Puissant te bénira. Qu'il veuille te bénir d'en haut par des pluies abondantes.
Qu'il veuille te bénir d'en haut par des pluies abondantes.
Et par des eaux d'en bas où repose l'abîme.
Et par des eaux d'en bas où repose l'abîme.
Par de nombreux enfants et beaucoup de troupeaux. Les bénédictions de ton Père surpassent celles des montagnes antiques.
Les bénédictions de ton Père surpassent celles des montagnes antiques.
Et les meilleurs produits des collines antiques.
Et les meilleurs produits des collines antiques.
Que ces bénédictions soient sur Wavrin.
Que ces bénédictions soient sur Wavrin.
Et sur le front du prince de ses frères.
Et sur le front du prince de ses frères.
Alors voyez, il y a combien de bénédictions ? Il y en a 5. Il y en a 5. Le Seigneur vous promet une plus grande fécondité, un rameau fertile. Il vous promet un rafraîchissement des courants d'eau vive de l'Esprit de Dieu. Et vous vous rappelez, source de vie, source de vie, vous appelez. Hein, et donc, il dit, plantez près d'une source. Et ce qui est merveilleux là, c'est que vos branches grimpent par-dessus la muraille. Donc voyez, au-dessus des difficultés, au-dessus des limites, au-dessus des restrictions, eh bien, vous allez vous agrandir et vous accroître. Par-dessus la muraille. Vous voyez peut-être que la muraille. On est souvent comme ça. Vous voyez que la muraille, elle vous cache toute la vue et toute la vision que Dieu vous a donnée. Eh bien, vos branches, elles grimpent au-dessus de toutes ces limites et de toutes ces restrictions. Rien ne pourra contrecarrer le plan de Dieu, le plan que Dieu a pour vous. Rien ne pourra le contrecarrer. Et puis, il vous promet un affermissement. Mais il vous faut aussi une persévérance, parce que vous êtes harcelé, mais maintenant, vous avez votre arc, et ça c'est l'arc de la prière, vous allez lancer vous vos flèches de victoire, qui fait les flèches qu'on vous a envoyées, eh bien elles ne vont pas produire d'effet, vous allez avec votre arc, donc il faut que vos bras soient pleins de force et qu'ils conservent leur souplesse. Donc on a chanté un chant, souple, donc soyez souple pour bien écouter le Saint-Esprit. Et priez selon le Saint-Esprit, que vos bras vraiment conservent cette souplesse, que vos bras soient pleins de force. Et puis, bénédiction abondante. Tout-Puissant te bénira, bénédiction à tout niveau, bénédiction dans vos familles, bénédiction financière, bénédiction dans votre travail, des bénédictions d'en haut, d'en bas, la bénédiction abondante. Voilà ce que le Seigneur m'a donné pour votre Église. Alors, croyez-le, c'est le temps maintenant, on passe du cachot au trône. Le Seigneur nous a préparé une robe de Phalin et tout ce que le diable nous a volé, on le retrouve, et mieux, et on peut le porter, parce que notre cœur a été purifié par les épreuves. Amen. Alléluia.
Merci beaucoup Annie, moi j'ai pas vu le temps passer, on m'aurait dit une prédication d'une heure un quart, mais non, vraiment, hein, c'était vraiment rempli du Saint-Esprit. Je suggère vraiment que nous notions pour nous-mêmes, nous copions cette bénédiction, et que les artistes parmi nous, un ou deux peut-être, le fasse d'une manière plus belle, plus jolie, enfin, le mettre sur un peu comme ça a été fait ici, là, vous voyez, là où il y a une parole prophétique qui a été peinte, enfin bon, donc je ne sais pas si quelqu'un sait peindre, mais au moins le réécrire d'une façon plus artistique, décorative, et que ça reste ainsi gravé, ce 28 janvier. ça reste gravé, vraiment, comme une parole, vraiment, nous le croyons, c'est une parole qui vient de Dieu pour l'Église, à travers sa servante. Hein? Un grand, grand merci Annie et sa compagne fidèle, Claire, qui l'accompagne toujours. Ça, c'est vraiment un témoignage d'amitié extraordinaire. Vraiment, je vous assure qu'on les connaît depuis longtemps. Et c'est un témoignage d'amitié, ces deux-là, c'est vraiment extraordinaire. Je bénis Dieu pour ça. Et j'ai complètement oublié de dire dans les annonces tout à l'heure qu'il y avait une agape. Mais bon, comme c'était annoncé dans le programme, bon, vous le savez, mais... Donc ça nous a permis de rester pratiquement tous jusqu'au bout, et ça c'est bien. Hein, et d'avoir pu vraiment... Odette, merci pour ta patience, je crois que tu as été bénie aussi, hein, en écoutant tout ça. Hein, c'est formidable, hein. Voilà. Ouais.